Garde aux voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des enfants de parents divorcés. Le divorce est devenu tellement banal que les conséquences sur les enfants sont souvent sous-estimées. Comme une fatalité pour les adultes, la séparation d'un père, d'une mère, n'est pourtant pas dans l'ordre des choses pour un enfant. Et souvent, il se demande s'il n'est pas responsable de la mésentente de ses parents. Alors comment rassurer ses enfants? Comment leur permettre de mettre des mots sur ce qu'ils vivent? On va en discuter avec nos invités, l'écrivaine Alimata Fofana. Bonjour Alimata.
Bonjour Emmanuel.
Vous venez régulièrement dans notre émission pour dialoguer avec les voisins et les voisines. Vous avez un pied sur chaque continent, l'Europe, l'Afrique et même le Canada d'ailleurs.
Exactement.
Donc trois pieds.
Exactement.
Formidable. Elisabeth Bramy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, auteur de jeunesse, votre dernier né, Mes parents divorcent, et alors? Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous comment vous avez surmonté ce moment si vos parents se sont séparés. On attend vos témoignages également de parents si vous êtes confrontés à cette question. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro WhatsApp pour nous laisser des messages et nous appeler en direct. On a surtout envie maintenant de dialoguer avec vous de vive voix puisque l'émission commence. Et puis en fin d'émission, en cette journée mondiale des migrants, nous donnerons la parole à l'association ECOTA, fondée par des étudiants réfugiés, et ça n'est pas si banal. Voilà, mais tout de suite, on démarre avec les parents divorcés et les conséquences sur les enfants.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Franck à Porto Novo, il a 25 ans, il nous dit « Mes parents se sont séparés l'année dernière, ils vivent au Niger. Comme je ne suis plus avec eux, ma scolarité souffre, je ne reçois plus d'argent de mon papa, je dois travailler. Mon père a une nouvelle femme et m'oublie. Quand je l'appelle, il raccroche. » Voilà, la douleur, même à 25 ans, pour cet enfant de divorcé. Bourgeois, il est dans le sud-ouest du Tchad. Il nous dit « Moi, j'ai un ami qui a souffert du divorce de ses parents. Il est partagé entre deux familles et surtout, il est détesté partout. La femme de son père le maltraite et le mari de sa mère ne l'aime pas. Il est obligé de vivre avec sa tante. » Vous nous téléphonez, bien sûr, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71, Alimata Fofana. Qu'est-ce que ça vous évoque, les deux témoignages que je viens de lire?
J'ai bien peur que ce soit assez récurrent. De ce que j'ai pu observer, souvent, quand les familles divorcent et que chacun des deux parents reconstruise la vie, c'est extrêmement difficile, serait-ce que pour le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe, d'accepter celui ou celle qui était là avant. Et pour l'enfant aussi, c'est également très difficile de se dire « je vais voir ma mère avec un autre homme et cet homme ne va pas être mon père ». C'est vraiment très très compliqué de vivre entre, j'allais dire, ces deux mondes, quoi. C'est-à-dire l'enfant ou l'adolescent a vécu dans un monde qui ne faisait qu'un, et là, il va grandir dans un monde maintenant qui en fait deux, quoi. Ouais. C'est ça la difficulté.
La famille recomposée, c'est partout dans le monde. Néanmoins, en Europe, on essaye que ça se passe bien.
Oui, mais que ce soit un monde cassé en deux ou en mille morceaux, c'est plutôt, je pense, toujours en mille morceaux que l'enfant se retrouve face à une situation presque de morcellement de sa personne.
Alors justement, on va essayer de, peut-être pas de recoller les morceaux, mais de ramasser les morceaux pour mieux lire ce qui se passe pour les enfants. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous dès maintenant si vos parents ont divorcé ou si vous êtes vous-même parent et confronté à ce problème. Tout de suite, écoutez le témoignage, l'histoire de Léa. Léa, elle a 30 ans. Elle habite dans le Morvan, à la campagne, avec sa petite fille de 1 an et son conjoint. Mais c'est à Paris qu'elle a grandi. Fille unique. Elle a 8 ans quand ses parents se séparent. Un événement qui a impacté sa vie d'adulte jusqu'à maintenant. Elle raconte au micro d'Alice Milo.
J'ai quasiment pas de souvenirs de mes parents ensemble. J'en ai juste un quand j'avais, je sais pas quel âge, mais je les surprends, j'ai envie de faire pipi. Je vais dans la salle de bain et je les surprends et je leur demande « qu'est-ce que vous faites ?» Ils m'ont dit « on était en train de se faire des guilis ». Mais bon.
Vous les surprenez en train de faire l'amour. En tout cas, de faire des câlins.
Oui, voilà, c'est ça, de faire des câlins à poil, quoi. Mais c'est le seul souvenir que j'ai d'eux ensemble. Après, je me souviens plus. En fait, c'est très bizarre, j'ai un blackout de mémoire. Donc, je ne me souviens absolument pas du moment de la séparation, de ma mère qui prend les valises, qui m'emmène et qui fait quelques mètres dans la rue et qui me dépose ici chez ma tante. Je me souviens absolument pas de ça. Je me souviens pas de quand mes parents m'ont dit qu'ils se séparaient. J'ai vraiment un trou de mémoire complet. Mais sinon, non, moi je me rappelle, j'ai comme des flashs en fait, j'ai tout que des flashs. Je me souviens de vaisselle cassée, ça beaucoup. En fait, je pense que c'est du silence, mais je suis sûre que c'était pas silencieux. Mais je pense que ma tête a fait du silence. C'est vraiment comme si c'était du coton toute cette période-là, mais non pas parce que c'était doux, mais je pense qu'au contraire, ça a été très brutal. Et du coup, mes souvenirs, ils se sont nimbés de coton, si je peux dire, un peu pour me protéger peut-être, comme si j'avais mis des boules quies, quoi. J'ai pas d'explication, en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils ont cessé de s'aimer, tout simplement. J'ai l'impression que c'est ma mère qui a pris la décision plus que mon père de partir.
Comment ça s'est organisé, votre vie, après la séparation, alors ?
Je suis allée vivre chez ma tante avec ma mère. Il y avait mon cousin qui était là, donc je retrouvais comme un grand frère, puisque moi, je suis fille unique. Donc j'avais l'impression d'une grande famille. Et mon père est resté un tout petit moment vivre dans l'appartement qu'on partageait. Puis il est parti vivre à Montpellier. Et mon père, je le voyais pendant les vacances scolaires et quelques week-ends. Donc, je me souviens très souvent de mon père qui vient me chercher à l'aéroport. Et moi, j'étais hyper contente pour lui parce qu'à cette époque, il avait rencontré une femme qui avait 3 garçons. Et les 3 enfants, ils étaient tous super beaux. Et moi, j'étais trop contente. J'avais l'impression d'avoir une famille aussi de ce côté-là. Donc, c'est comme si d'un coup, j'avais gagné 2 familles. Moi, qui étais enfant unique, je me sentais en même temps tiraillée. Et en même temps, j'avais gagné ces 2 familles. Donc, c'était chouette.
Et comment se passent les relations entre votre père et votre mère après la séparation ? Et comment vous vous retrouvez au milieu de ce nouveau duo ?
Au début, ça se passe mal. Au début, ils ne se parlent pas. C'était très compliqué. Je me souviens, quand j'allais à Montpellier, mon père, parfois, souvent, parce que j'étais très proche de ma mère, m'interdisait de l'appeler. Donc, j'étais obligée de fixer des horaires avec ma mère, ça je m'en souviens très bien, et dire, ce soir tu m'appelles à 20h, et puis c'est moi qui décroche le téléphone. Parce que si c'était mon père, soit il raccrochait, soit il me disait pas que c'était ma mère, ou je sais pas quoi, et il voulait pas me la passer.
Il est jaloux.
Ouais, peut-être c'est ça, ouais, c'est de la jalousie, j'avais jamais vu ça comme ça. Ouais, il est jaloux de l'attachement que j'ai pour ma mère. Quand je devais avoir 13 ans, il m'avait invité à dîner, mon père. Et il m'avait dit, Léa, maintenant j'aimerais que tu viennes vivre à Montpellier avec moi. Et moi j'étais complètement tétanisée, j'ai pas du tout accepté. Enfin, je voulais surtout pas partir avec lui. J'avais toute ma vie qui était ici, j'avais toutes mes amies. C'était impossible pour moi, mais je pense que pour lui, c'était vraiment, il se sentait arraché de sa seule fille. Et quand j'ai dit non, on est rentré dans l'appartement et il a renversé les meubles, il s'est mis dans une colère noire. Et il a été très fâché que je ne veuille pas le suivre. Là, c'est Noël. Et encore aujourd'hui, j'ai le droit à... J'ai 33 ans. Hein. J'ai le droit à... Ah, mais tu passes toujours Noël avec ta mère. Pourquoi tu viens jamais avec moi? Et tout ça. Et... Moi, j'ai l'impression d'être une ado. Pour moi, il y a une énorme culpabilité à chaque fois de devoir choisir entre mon père et ma mère. Et c'est toujours ma mère que je choisis et que je protège. Parce que, il a un passif où il est souvent malheureux, dépressif et tout. Donc, moi, je l'abandonne à sa dépression. J'ai pas envie de m'occuper de ça. Et donc, oui, mon père, je pense qu'il souffre énormément de ça.
Quand il vous pose la question de savoir si vous voulez venir vivre avec lui, comment vous vivez cette scène-là, vous, cette violence-là, comment vous l'impactez ?
Super mal, super mal. Et là, j'ai une fille, et la dernière fois, mon compagnon s'est mis en colère, il a renversé une chaise, et en fait, je lui dis, mais c'est pas possible, tu sais pas ce que t'es en train de lui créer comme souvenir, là. C'est pas possible, cette colère-là, elle a pas à sortir. Les enfants, ils ont pas à faire les frais de la colère comme ça.
Comment ça a affecté justement votre vision du couple, de la famille ? Est-ce que ça a eu un impact après dans vos relations amoureuses ?
Je crois que de mon côté, il y a une forte envie de réparer, donc de construire. Donc toutes les relations amoureuses que j'ai eues, c'était que des histoires d'amour. C'était que des choses que j'ai voulu faire durer. Et au bout d'un moment, ça capotait. Et quand ça capotait, je me dis, oh non, moi je suis comme mes parents, j'y arriverai pas. Et non, je suis toujours là-dedans, en fait. Je suis toujours en train de me dire, et moi, je vais y arriver, vous allez voir, je vais y arriver, je vais rester avec la personne, on va être heureux, on va s'en sortir. Je fais des thérapies de couple, je fais tout, quoi. Et... Parce que mes parents, je pense que pour le coup, ils ne sont pas allés voir un psy. Peut-être que ça les aurait aidés. De ne pas baisser les bras. Pourtant, j'ai envie de fuir, dès que ça ne va pas. Je me dis, oh là, c'est fini, pouf, laisse tomber, c'est fini. Mais non, en fait, il y a quelque chose en moi qui dit, non, ça ne va pas se terminer comme ça, ce n'est pas possible.
L'impact du divorce jusqu'à la vie d'adulte, Elisabeth Brami.
Bien sûr, comme tout traumatisme, ça a ses conséquences.
Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ou surtout sur la fin du témoignage, quand les parents ne font pas ce qu'il faut, ils ne vont pas voir un psy, ce qui n'aurait peut-être pas rafistolé les choses, les enfants sont vivement encouragés à le faire, parce qu'on ne peut pas trimballer ces boulets qui ne nous appartiennent pas toute la vie, quoi. C'est quand même dommage. C'est un témoignage formidable. En fait, j'ai retrouvé absolument tout ce que j'écris dans mes bouquins. C'est simple. Déjà, par exemple, dans La maîtresse me stresse, le gosse, il ne peut pas supporter les cris de la maîtresse parce que ça lui rappelle les cris de chez lui et de ses parents. Quand il dit « Depuis tout petit, je crains que les bagarres finissent dans le sang, que papa tue maman ou l'inverse », comme on a montré un soir à la télé, j'ai trop peur qu'il divorce. Là, il y a la peur du divorce dès les bagarres, et les enfants ne font pas les choses à moitié dans leur fantasme. C'est à la vie, à la mort, c'est tout ou rien.
Ouais. Ce que vous racontez dans vos histoires pour enfants, c'est ce que vous avez entendu de la bouche même des enfants qui viennent
Non, ne croyez
parfois,
pas ça.
Quand même.
Non, pas du tout. Mais pas du tout. Je ne travaille pas mon écriture avec ce que j'ai entendu dans mon cabinet ou à l'hôpital de jour où j'ai bossé pendant de longues années. Pas du tout. C'est que tout ce que j'ai entendu ensuite dans les écoles, partout, résonne en moi, mais ne résonne pas en moi en tant qu'enfant de divorcé. Je ne suis pas enfant de divorcé. Du tout. Par contre, la peur du divorce, tous les enfants la connaissent. Alors, à ma génération, il y avait un gosse de divorcé par classe. Et c'était la honte. C'était comme s'il y avait la syphilis dans la famille, quoi. Donc, on ne le savait pas. Maintenant, il y a 2/3 de divorcés dans les classes. C'est peut-être même plus facile à vivre. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que les parents se mettent à s'engueuler, ce qu'ils devraient faire dans l'intimité, de préférence, mais bon, les murs sont un peu en carton dans les HLM et partout, l'enfant sait qu'il va lui arriver une catastrophe.
Alors justement, voilà. On essaye de déverrouiller un peu cette parole et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, les voisins, les voisines. Halima Tafofana, cette parole aujourd'hui, dans la banalité du divorce, comment elle s'exprime ? Qu'est-ce que vous voyez autour
de vous ? Déjà, je dirais qu'il y a deux mondes. Parce que par rapport à ce que vous avez dit, Elisabeth, ça fonctionne. Là, c'est en Occident. Parce qu'on sait bien qu'en Afrique, la famille est beaucoup plus élargie. Et il ne faut pas oublier que dans certains pays musulmans, quand les enfants sont en âge de vivre, entre guillemets, de manière autonome, en gros, quand il n'est plus au sein de sa mère, la garde est confiée au père. Et donc là, déjà, ça change la donne.
C'est sûr.
En cas de divorce.
En cas de divorce, oui. Peu importe si la mère a tort ou non, la garde est confiée au père. Ouais. Et ce qui est frappant aussi, c'est comme c'est une famille élargie, l'enfant n'est pas uniquement éduqué par le père et par la mère. Il y a donc les oncles qui interviennent, il y a les tantes. Je ne dis pas que c'est plus facile pour ces enfants-là, mais je pense que ça doit jouer.
Ce sont des repères quand même.
Oui, ce sont des repères
précieux.
Importants.
Oui.
Et le fait qu'il y ait plusieurs repères, ça peut créer quand même une certaine stabilité.
Tout à fait. Ouais.
Malgré
sur la parole, on a Amadou qui est à Thiès, près de Dakar, qui nous dit « Je me suis séparée de la mère de mes enfants depuis 5 ans, je vis avec eux et je me demande parfois ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Nous vivons ensemble, ils s'adaptent à leur nouvelle vie. » Il y a beaucoup de parents qui disent finalement ne pas bien savoir ce que ressentent les enfants parce que cette parole, elle reste assez confinée, non, Elisabeth Brami ? Qu'est-ce que vous entendez dans les écoles ? Par exemple.
Alors, dans les écoles, c'est pas compliqué. J'ai mis en exergue de mon bouquin « Mes parents divorcés alors » la parole d'un petit gosse de CE1 qui a levé le doigt et m'a dit « Moi, je sens bien que mes parents devraient divorcer, mais je sais pas pourquoi ils n'y arrivent pas. » Donc, c'est cette philosophie-là que l'enfant a. En fait, peut-être quand même qu'il craint ce divorce, mais qu'une fois le divorce acté, il y a un effet de soulagement. Parce que bon, on a amputé le truc qui pourrissait, quoi. C'est invivable.
Moi, ce qui m'avait frappé en tant qu'enseignante avec les enfants, là, c'est des ados, ils étaient plus grands, divorcés, surtout quand ce sont des gardes partagées, où il y a une semaine chez le père et une semaine chez la mère, les enfants sont perdus. Dans le sens où, quand ils doivent venir en cours de français avec leurs affaires,
ils n'ont jamais les bons manuels.
Mon père, j'ai oublié chez ma mère.
Absolument.
Alors, on a tendance à croire que ça coule et que tout va bien, mais en observant uniquement les comportements, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui est quand même difficile à digérer de la part de ces adolescents. Et je dirais que là, on parle quand tout va bien, quand le père joue son rôle et qu'il prend les enfants.
Mais quand il disparaît,
c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Moi, ce qui m'avait frappé en recevant des mères de famille pour parler de leurs garçons. Moi, ce qui m'a frappée, c'est vraiment pour les garçons. Mmh. L'absence de père, ça a des conséquences terribles pour la construction de ces jeunes hommes. Bien Alors, sûr. C'est vrai qu'on vit dans une ère où maintenant les femmes font des enfants toutes seules et qu'on a presque plus besoin d'hommes. Je pense qu'on va quand même le payer extrêmement cher dans quelques années dans la construction de ces individus. Que vont-ils devenir ?
Tout dépend effectivement de quelle est la figure qui représente aussi une forme d'autorité, de limite.
Mais quelle va être cette figure ? Là est toute la question, parce que dans ces environnements dans lesquels j'ai travaillé, hormis les petits frères, il n'y a pas d'hommes.
La culpabilité, ça a été évoqué dans le témoignage.
Énorme, oui, bien sûr, la culpabilité.
Est-ce que tout enfant se sent à un moment donné, se dit, mais et si c'était de ma faute ?
Oui, mais alors ça va tout à fait avec la mégalomanie de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant se sent le centre du monde et du couple parental.
C'est pas normal, ça.
Ah bah non, mais ça va de soi. Si vous êtes persuadé que vous êtes vachement important dans l'affaire, vous portez la culpabilité de la catastrophe aussi. Vous y êtes pour quelque chose. C'est une mauvaise note, j'ai pissé à côté les toilettes, j'ai fait une bêtise et voilà, ça a fait péter le couple. C'est tout bête. Maintenant, c'est très très lourd à porter et si les parents ne font pas leur travail un minimum, l'enfant continue à se poser ce genre de questions et à souffrir énormément de ça.
Et on parlait des adolescents. Oui, allez-y, oui, Anne-Mata.
Je reviens par rapport à ce que vous avez dit ultérieurement. Quand vous parlez de traumatisme, vous parlez donc de quelque chose qui est très, très ou presque pas facile à surmonter.
Ah non, pas facile du tout. La preuve, vous avez entendu le témoignage du 8 ans de la fille qui fait une amnésie totale.
Oui, 8 ans. Normalement, elle devrait parfaitement se souvenir.
Elle a tout ce qu'il faut pour se souvenir. Eh bien, elle a tout refoulé. Elle ne se souvient pas de la scène où on lui annonce. C'est ce que je fais dans mon bouquin, justement. J'écris sur cette scène. Cette scène où l'enfant était en train de jouer peinard avec ses Playmobil un dimanche. Tout à coup, sa mère lui dit « Viens dans le salon, on a quelque chose à te dire ». Il pose ses fesses sur le canapé. Les parents, ils remarquent tout de suite que ses parents ne sont pas assis l'un à côté de l'autre, mais un dans le pouf, un dans le fauteuil, ce qu'ils ne font jamais. Et là, l'annonce est faite. Et le monde s'écroule. Le monde s'écroule. Bon, je ne vais pas vous lire mes grandes pages littéraires, mais tout est là. Et après, il y a tout ce désarroi, ce monde qui s'est écroulé. Et j'ai fait faire une enquête à mon gosse pour qu'il s'en sorte. Par exemple, assister sans pouvoir rien faire au déménagement de son papa et sa maman, c'est ce qu'on a entendu, dans ce qu'elle ne se souvient pas. Ou bien ne plus jamais avoir ses deux parents ensemble, ou bien laisser un parent seul et triste sans pouvoir rien faire, ça c'est la culpabilité de laisser l'autre,
l'impuissance,
etc. Oui, mais changer de maison, d'école, de ville, de pays, c'est énorme. Il y en a un qui se plaint, d'ailleurs un de ses copains qui dit « Maintenant je suis obligée de prendre l'avion, mais une étiquette autour du cou, pourquoi pas un collier anti-puce, quoi. »
Oui, mais est-ce que, c'est une question que je pose, comme aujourd'hui, vous l'avez vous-même souligné, que dans les classes aujourd'hui, on voit que la majorité des enfants, moi j'ai vu ça aussi en tant qu'enseignante, sont issus d'enfants divorcés. Oui. Est-ce que ce n'est pas la nouvelle norme ? Est-ce que l'enfant, aujourd'hui, ne s'adapte pas plus dans ce cas ?
Non, il a moins honte par rapport à la société. Il est moins le canard boiteux, celui qu'on ne va pas inviter aux anniversaires. Dans les années 50, on se méfiait, ne serait-ce que parce que la mère était seule et qu'elle devenait un danger. Donc, les enfants souffrent exactement de la même façon parce qu'en fait, ils sont le résultat d'une histoire d'amour et ils vont douter de cette histoire d'amour et même du désir qu'ont eu leurs parents à les faire naître.
Alors, comment les enfants vivent le divorce selon leur âge ? On vous pose aussi la question à vous, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. On accueille Charbel qui est à Cotonou au Bénin. Bonjour Charbel.
Bonjour Emmanuel.
Charbel, vous avez 31 ans. Vos parents ont divorcé il y a 10 ans, donc vous aviez 21 ans, c'est bien ça ?
Exactement.
Comment vous l'avez vécu ?
Je l'ai vécu très très mal, très très mal. Parce qu'au début, ils étaient ensemble. Bon, c'est vrai, je n'ai pas je ne me rappelle pas exactement de les avoir vus ensemble, mais quand même, j'ai quelques bribes de souvenirs qui me viennent de temps à autre. Et quand c'est arrivé...
Vous avez quand même grandi pendant plus de 20 ans avec vos parents ensemble.
Ah non, j'avais 10 ans. Ah, 10 ans. Quand,
d'accord, quand vous aviez 10 ans. Oui. D'accord, oui. Okay. D'accord. J'avais voilà. compris que vos parents avaient divorcé il y a 10 ans. Bon, d'accord.
Ah, non. Ah, non.
D'accord. Ah oui, alors effectivement, oui. Il y a forcément des souvenirs, mais qui se sont peut-être effacés. On en parlait à l'instant. Oui. Peut-être aussi pour vous protéger, je ne sais pas.
Oui, exactement, exactement. Donc, j'ai essayé de refouler tout en moi de façon inconsciente. Et voilà, donc quand c'est arrivé, c'était pas du tout facile. Il y avait l'école, les cours, je n'arrivais pas à bien suivre.
Oui.
Mon papa me refusait d'aller voir maman. Il me surveillait tout le temps. C'était très, très compliqué. Donc du coup, mes cours, mes notes ont chuté parce que des fois même, j'étais obligé même de m'absenter à l'école rapidement, d'aller voir maman à la maison.
Pourquoi ? Parce qu'il y avait une inquiétude. Il y avait...
C'est votre père qui vous suivait lorsque vous alliez voir votre mère, c'est bien cela ?
Bon, c'est l'impression qu'il nous avait donnée, qui nous surveillait. Donc,
il voulait pas que vous alliez voir votre mère, c'est ça ?
Du tout pas, du tout pas.
Et donc, c'est votre père qui avait
qui vous a élevé.
Voilà, voilà, on est resté chez lui. Oui. Voilà, donc durant au moins...
Aujourd'hui, Charbel, vous êtes parent vous-même ?
Oui, voilà, oui, exactement. Je suis parent de deux enfants.
Oui.
Et grâce à cette mauvaise expérience que j'ai eue, mauvaise ou bonne, quand même, je me suis quand même dit que je n'allais jamais infliger une telle souffrance à mes enfants. Quoi. Voilà. Parce que je vois aujourd'hui l'importance que mes enfants ont de me voir... ses parents à leur côté.
Oui.
Voilà, ils sont très contents, très heureux. Et quand bien même il y a quelques disputes qui viennent entre ma femme et moi, je vois comment les enfants sont affectés. Et rapidement, je me dis non, attention.
L'inquiétude. Ouais.
Que, voilà.
L'inquiétude qui peut pousser. Jusqu'où doit-on aller quand ça ne va pas dans le couple?
Alors, oui, on va y venir. Merci en tout cas. Merci Charbel de nous avoir appelé. Hein. Vous avez raconté ce divorce qui a eu lieu quand vous aviez une dizaine d'années. Mais d'où ma question que je réitère. Comment les enfants vivent le divorce selon les âges ? Est-ce que d'ailleurs, tous les parents se posent la question, est-ce qu'il y a un âge où c'est moins difficile pour les enfants ? Elisabeth Bramé.
C'est difficile à tous les âges, mais on minimise les dégâts du divorce sur les adolescents et les grands adolescents qui y ont cru, qui ont sauvé le couple parental pendant des années, qui étaient peut-être les seuls à avoir encore des parents ensemble. Et tout à coup, juste à la période où la sexualité se met en place, où les histoires d'amour commencent à se former et les projets d'avenir de couple à se faire, tout s'effondre. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est plus que la culpabilité d'y être pour quelque chose, qui est vraiment le fait des petits, l'adolescent, lui, il est complètement remis en question par rapport au rôle de fille ou de garçon, où l'identité, son identité d'homme ou de femme est remis en question, la façon de fonctionner avec l'autre. Et surtout,
il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans leur histoire.
Ils ont l'impression d'avoir été les dindons de la farce.
C'est ça.
Il y a quelque chose, vous savez, c'est comme quand on s'aperçoit que finalement tout le monde connaissait la vérité. Sauf soi-même. Il y a évidemment des enfants, des adolescents qui ont vu qu'il y avait des tensions, ça se voit, des disputes. Il y a même des familles où c'est le silence qui fait, qui est d'une violence inouïe. Les parents qui ne se parlent pas, mais ils se font la gueule, quoi.
Oui.
Et en fait, il y a un déni, mais tout à coup, ça arrive. Et c'est une catastrophe autant pour les adolescents que
pour
les petits.
On va donner la parole à Luc Johan qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Luc Johan, bonjour à vous.
Bonjour.
Luc Johan, vous avez 23 ans. Vous êtes au Bénin également.
Oui.
Alors vous n'avez pas du tout connu vos parents ensemble. Hein. Ils étaient séparés quand vous êtes né.
Oui.
Ça veut dire que du coup, vous avez quelle image du couple parental ?
bon, selon moi, mes parents, et je ne sais pas réellement ce qui les a séparés, mais dès que je suis né, j'ai vu que nos deux parents avaient comme responsabilité notre éducation, puisque ma maman, à ce que je commence par reconnaître les choses, me montrer chaque fois la présence de mon papa. Bon, je peux dire que c'est après 8 ans que j'ai vu mon papa, et réellement, et papa aussi, quand il venait à la maison, il ne parlait pas, et il ne faisait pas voir le côté mauvais des choses avec moi, mais il était toujours avec nous.
Mais il y avait du conflit, il y avait du conflit entre vos parents, ou pas, puisque vous ne les avez connus que séparés?
Et je les connais séparés, mais ce conflit ne nous concernait pas trop, puisque ne mettait pas le conflit face à nous.
C'est ça, il s'occupait surtout de l'éducation là-bas. Et de réussir votre éducation. Le conflit ne nous concernait pas. Est-ce que c'est une phrase finalement à méditer et très sage pour les enfants? Le conflit ne nous concernait pas, d'une certaine manière, c'est Alimata Fofana. Ah,
c'est ça. Moi, je trouve que oui, c'est qu'il y a un moment... si les parents sont en mesure... d'expliquer tout ça aux enfants en leur disant, ben voilà, on se sépare, mais tu n'y es strictement pour rien, c'est vraiment parce que nous nous entendons pas et que lui, l'enfant, il est fruit de l'amour, mais aujourd'hui, cet amour s'est estompé, serait-ce que mettre des mots
et on reste tes parents
malgré tout, on va t'accompagner.
Ouais, mais alors ça, tous les parents le disent hein, maintenant. Oui, on se sépare, on reste tes parents en même temps.
Mais après, faut accompagner, c'est les mots de geste. Ouais, je pense que c'est aussi ça derrière. Parce que c'est très facile de dire des choses comme ça, ça ne mange pas de pain. Mais quand il s'agit de mettre en place des gestes, là par contre, l'enfant, ça va être plus concret.
On a un auditeur qui nous appelle, Fidèle, je ne sais pas où il est, dans quelle ville il est, Fidèle, il nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Est-ce qu'on l'a en ligne, Fidèle? Fidèle, oui, bonjour Fidèle.
Oui, bonjour.
Bienvenue chez 7 milliards de voisins. Et puis merci aussi à Luc Johan qui nous a appelé tout à l'heure.
D'accord, moi je vous appelle du Burkina Faso à Ouagadougou.
Oui.
Voilà, je disais tantôt que je suis un enseignant dans un lycée. Mm-hmm. Voilà, c'est vraiment des internes. En fait, tous les élèves sont à l'internat.
D'accord. Pensionnaire.
Voilà. On a des cas, effectivement, voilà, qu'on constate. J'enseigne le cours d'éducation civique et morale. Mm-hmm. Voilà. En fait, il y a pas mal d'enfants dans cette école qui ont vraiment de mauvaises notes et un manque de confiance même pratiquement dans presque tout ce qu'ils font à l'école comme activité.
Oui.
Parce que, voilà, on a recensé même le fait que la plupart des enfants qui sont là-bas, vraiment, les parents sont séparés.
Oui.
Voilà, il y a un cas spécifique que j'ai expliqué au standard. L'enfant, aujourd'hui, il est en classe de 3e. Mmh. Il n'arrive pas à se concentrer. Et chaque fois quand je quitte l'école, il me donne des notes. Il me demande, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider car je n'arrive pas à surmonter parfois ma peur. Parce que quand je suis avec ma maman, mon papa vient me prendre avec la force pour aller. Mmh. Parce que son papa est remarié ailleurs, la maman aussi est mariée. Mmh.
Donc c'est vraiment un enfant qui est tiraillé dans l'ancien, par l'ancien couple, finalement, le père et la mère.
Effectivement. Mmh. Voilà. Et je lui demandais, parfois je n'arrive pas à lui prodiguer les conseils qu'il faut, parce que bon, moi c'est vrai que je n'ai pas eu des parents séparés, mais parfois je prends mon histoire pour lui dire, bon, c'est pas aussi une fatalité pour remonter, mais vraiment ça ne suffit pas. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment l'enfant, on n'arrive pas vraiment à l'aider.
Ouais.
Personnellement, c'est souvent difficile.
Parce qu'il vit dans cette peur, l'enfant, il est très souvent, alors avec plus ou moins de violence, mais instrumentalisé, utilisé par les parents dans le conflit.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Et parfois, même quand il y a les congés, il préfère même souvent rester à l'internat, puisque pendant les congés, on les libère pour rejoindre les familles.
Mmh. Voilà. C'est un mal-être profond.
Il a du mal parce que, voilà, il s'est dit que s'il va en famille, c'est vraiment peine perdue. Donc, souvent, ils sollicitent même à vouloir rester à l'internat pendant même les congés. Et ça, c'est vraiment très, très difficile.
Vous avez essayé de parler avec les parents, Fidèle?
Non, je n'ai pas encore pu rencontrer les parents. Voilà, mais c'est beaucoup plus avec l'enfant que j'essaie de remonter. Bon, je me disais, avec les congés de la Noël, j'allais peut-être le récupérer. Mm. Et puis, voir si je peux peut-être croiser au moins ses parents.
Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire à Fidèle?
Moi, ce qui me frappe, c'est que les parents ont beau être divorcés, ils sont toujours en conflit. C'est-à-dire que le divorce ne met pas fin au conflit.
Ben non.
ça perdure. Et là, oui, ça va quand même très,
normalement,
très loin.
Ça devrait mettre fin au conflit.
Ça devrait, mais on attend beaucoup des parents. Une fois divorcés, ils ne vont pas devenir des super parents géniaux et s'entendre bien sur l'éducation.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une personne extérieure? Quand on est une personne comme un enseignant chargé de l'éducation d'un enfant, qu'est-ce qu'on peut faire?
Là, dans ce cas précis, il y a quelque chose de très, très intéressant. C'est d'abord, parce que l'internat, ça a de très, très bons côtés.
Mettre une distance avec le conflit.
Un roman que je vais sortir là, qui s'appelle Jamais de la vie, c'est une fille qui ne supporte pas le divorce de ses parents et qui va demander à aller en internat, ce qui est une démarche extrêmement difficile à faire quand on est une fille unique en plus. Je pense que c'est une protection, mais il faut sentir quand même que ses enfants se sentent abandonnés, c'est de l'abandon, c'est une espèce d'orphelinat où ils arrivent et que ce que peut faire ce monsieur, comme tous les encadrants d'un endroit comme ça, c'est de donner un lieu de vie, un milieu où les enfants puissent se récupérer.
Moi, ça m'a fait penser, quand j'étais plus jeune, j'étais nounou. Et dans des familles, là, c'était une famille très aisée, ça me permettait de partir à l'autre bout du monde. Et les parents avaient divorcé. Et moi, je suis arrivée, c'était la période où ça a été acté d'un point au niveau de la justice. Et alors la mère m'avait dit, faites attention à mon mari, il va essayer de vous soudoyer des informations. Alors je me suis dit déjà, je me suis mise dans une situation extrêmement difficile. Et il s'avère, quand j'ai rencontré le père, qui était très charmant, il cherchait à tout prix à nuire à la mère, soit par moi, en m'utilisant moi en tant que nous, ou par les filles. Et c'est vrai que c'était extrêmement compliqué à gérer, déjà le temps que vous compreniez que vous étiez l'objet de nuisance vis-à-vis
c'est
de la
ça,
mère.
Ça veut dire que Fidèle, par exemple, s'il intervenait et parlait aux parents de cet enfant qui vit une situation difficile, tous les adultes autour de l'enfant sont susceptibles d'être instrumentalisés dans le conflit.
Bah, chacun va donner sa version déjà. Et c'est très compliqué quand vous entendez le père ou la mère de vous dire qui c'est qui dit juste ou non.
Ouais. Alors, ça pousse au standard, on a beaucoup d'appels. Ah. Merci à Fidèle de nous avoir appelé. Antoine nous téléphone au 33 1 84 22 71 71.
Il y a
on parle
plus d'hommes
du divorce aujourd'hui. Ouais, les voisines s'auto-censurent. On aimerait bien avoir vos appels et surtout votre vision de la séparation. Si c'est le cas pour vos parents, les voisines qui se sont séparées, ou si vous-même vous êtes en situation de séparation, appelez-nous, 33 1 84 22 71 71. Antoine nous appelle de Lomé. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Alors vous, vos parents se sont séparés juste avant votre bac. Vous étiez donc pratiquement adulte.
Oui, pratiquement, oui.
Ouais. Pratiquement, mais pas tout à fait, pas tant que ça, c'est ça?
C'est ça. Et donc, juste avant mon bac, j'espérais vraiment trouver une solution, une échappatoire. C'est-à-dire fuir. Et pour moi, la seule solution, c'était de trouver une bourse et puis partir de la maison, sortir du pays carrément. Donc, heureusement, ça s'est fait. J'ai pu obtenir une bourse et donc j'ai fui. Et je me rappelle que le jour de mon départ à l'aéroport, j'étais très content. Bon, toute la famille était malheureuse. Et finalement, je me suis senti coupable de fuir la maison et de laisser mes petites sœurs dans cette situation.
Dans la situation de la séparation et du conflit.
Dans la situation du dans le conflit à la maison, je veux dire. Et moi, j'ai réussi à me reconstruire à l'étranger puisque j'ai fait 7 ans avant de retourner à Lomé. J'étais indépendant. Mais ça a énormément pesé sur la situation de mes sœurs.
Et comment vous êtes reconstruit, si je puis me permettre?
En étant loin, justement, est-ce que c'est à cause aussi de la séparation que vous n'avez pas voulu rentrer plus tôt au Togo?
C'est aussi à cause de la séparation que je n'ai pas voulu rentrer si tôt au Togo. Mais bon, ils ont quand même, mes études ont pris 7 ans.
Et vous avez consulté pour vous reconstruire?
Non, je n'ai pas consulté. J'ai eu... Disons que je me suis reconstruit grâce à mes amis surtout, de différents horizons, de différents pays.
Et puis à la distance aussi. C'est la distance qui a atténué la tristesse et la douleur.
Oui.
Oui, mais pour arriver à cette distance, il fallait déjà être très fort et barrer une certaine culpabilité de laisser tout le monde derrière, son père, sa mère. C'est d'habitude, ça. Les fils sont très chevaliers servants de leur mère, ne veulent pas les laisser dans la merde et ils se sentent obligés de rester là. Donc c'était une grande force de pouvoir vivre votre vie ailleurs et de partir.
Je voudrais qu'on donne la parole à un autre auditeur. Merci à vous, Antoine, de nous avoir appelé. Eric nous appelle de Boutembo, en République démocratique du Congo. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour, Emmanuel.
Vous êtes étudiant en psychologie. Vos parents se sont séparés il y a une quinzaine d'années, c'est bien ça? Vous étiez adolescent, grosso modo.
Oui, j'étais adolescent. Je m'appelle Eric Eboué-Spanouk, à partir de Boutembo, comme vous me dites. J'étais adolescent. C'est vers 2004, l'histoire remonte depuis 2004.
Oui, 2004, c'est une date qui vous a marqué apparemment, hein, le divorce de vos parents.
Vraiment, c'est une date qui me marque.
Et vous avez dit au Standard que c'était pour ça que vous avez voulu entreprendre des études de psychologie. Et vous avez fait votre thèse, vous avez fait votre thèse de fin d'études, hein, sur les conséquences psychosociales de la séparation des parents sur les enfants.
Affirmatif. La thèse que vous dites, c'est ici on l'appelle TFC, ici on l'appelle TFC, la troisième année de l'université. Oui, j'avais abordé cette thématique ou ce thème ou sujet, c'est à cause de mon parcours de la vie.
Ça vous a permis de prendre de la distance, de vous reconstruire aussi par rapport à ça?
Oui, surtout ça m'a reconstruit parce que j'avais évalué aussi les affaires qui sont en train de vivre comme moi et qui vivent comme moi. Et je les avais évalués à travers les questionnaires d'enquête. Donc j'avais travaillé avec des affaires et j'avais compris comme quoi ils souffrent aussi comme moi, je souffrais bien avant.
C'est ça, pouvoir aider d'autres enfants plus jeunes que vous qui sont passés par les mêmes difficultés. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Eric. On accueille Amadou qui est à Conakry, en Guinée. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la RFI.
Soyez le bienvenu chez les 7 milliards de voisins. Amadou, alors vous êtes quand même dans une situation assez incroyable, c'est que vous, les enfants de la fratrie, hein, vous refusez depuis plusieurs années que vos parents se séparent. Vous avez 24 ans.
Oui, effectivement, c'est tout à fait réel. Nous avons empêché nos parents de se séparer, mais j'avoue que cela n'a pas été facile parce que depuis plusieurs années, on est confronté à des problèmes familiaux avec nos parents parce qu'on avait tout à fait des difficultés à les conseiller parce que si on s'est rapproché du papa, voilà, pour lui dire de cesser de s'engueuler avec la maman, donc la maman pensait qu'on était beaucoup plus rapprochés parce que du père que de la maman.
C'est ça, vous êtes transformé un peu en conseiller conjugaux.
Et donc, si je puis me permettre, et donc vos parents vous parlaient des difficultés qu'ils rencontraient dans leur couple.
Où ça se voyait, parce que j'ai l'impression que c'est pas super l'ambiance à la maison, hein, néanmoins, même si vos parents sont toujours ensemble.
Bon,
vous avez peut-être résolvé.
Oui, en fait, il nous parlait des difficultés, mais quand, par exemple, je suis avec ma maman, elle me parlait de ce qu'elle subissait envers mon papa. Et effectivement, quand je suis aussi avec le papa, il me parle de ce qu'il subit avec la maman. Ouais.
Bon, ça ne doit pas être de tout repos, hein, quand même. En tout cas, bon, merci de nous avoir raconté.
C'est très original.
Oui, Ibrahima, à Dakar aussi, nous dit « Mes parents ont divorcé avant de se remettre ensemble 2 ans après. C'est moi qui ai insisté auprès de mon père pour qu'il se remette avec ma mère. J'avais 18 ans, donc j'étais un peu mature pour les ramener à la raison », nous dit Ibrahima. « C'est une histoire peu commune parce qu'ici au Sénégal, l'enfant n'a pas son mot à dire là-dessus. Il n'y a toujours pas de cohésion remarquable entre eux, mais tout de même, je les préfère ensemble que séparés. »
Mais là, ce qui veut dire que c'est le père qui est à l'origine du divorce. Parce que dans le sens inverse, ça m'étonnerait que ça aurait été possible.
C'est-à-dire?
Dans le sens où si c'était la mère qui était partie et qui s'est dit « non, je vais reprendre le père », ça n'aurait pas fonctionné.
Parole de féministe.
mais c'est une utopie raisonnable ou pas pour les parents?
Non, c'est une utopie.
Si j'arrivais à les
remettre
ensemble.
Il y a quelques années, j'ai fait un documentaire avec Lorraine de Bézieux sur le divorce, justement, et c'était un atelier d'écriture dans une classe de CM2 à Paris. Et tous les gosses voulaient qu'on écrive ce roman qui se terminerait par « Les parents se remettent ensemble ». Et quand je leur ai dit, mais écoutez, est-ce que vous connaissez des gens qui se sont déjà remis ensemble, des gens démariés qui se remarient? Personne.
Dans la classe. Non, mais ça existe.
Ben oui, ça existe. Moi, j'ai une amie comme ça.
Oui, on en connaît.
Attends, mais combien? C'est pas nombreux. 0,001%.
Oui, très peu, mais
d'accord.
Ça existe.
Non, mais comme on n'était pas dans un rêve et qu'on était dans un roman réaliste, ils ont tous réfléchi et finalement, c'était formidable parce que la mère a eu le droit de se remarier de son côté, le père était une épave qui s'est mis à l'alcool et enfin, leur vision la destruction après.
Donc, réunir ses parents, c'est pas une utopie raisonnable. Il faut faire ce deuil, il faut accepter cette situation. C'est ce que vous
Il faut accepter, on n'a pas son mot à dire. quand on est enfant sur les affaires des parents.
Quel que soit son âge, y compris si on a 20, 22 ans.
Et alors, ce qui est évidemment confortable pour l'enfant, c'est de croire qu'il a pu remettre ses parents ensemble et surtout de pouvoir s'en aller faire sa vie.
Je voudrais qu'on prenne un dernier auditeur. Jérémy nous appelle en région parisienne, Neuilly-Plaisance. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs.
Jérémy, vous avez une question?
Oui, alors, je suis divorcé depuis 3 ans. C'est mon ex-épouse qui a la garde des enfants. Le divorce ne s'est pas tout à fait bien passé. Et bon, il y a malheureusement quelques difficultés de communication entre mon ex-épouse et moi. Je voulais savoir comment et quelle attitude avoir envers les enfants afin que l'impact de ce divorce ne soit pas plus traumatisant encore.
Ils ont quel âge, les enfants ?
Les enfants ont 9, 14 et 18 ans.
Que dire à vos enfants, c'est ça, finalement, Jérémy, hein ?
Oui, parce que j'ai l'impression que bon, les deux premières, surtout la deuxième, ont intériorisé le fait d'être coupable. Ça me désole, mais la communication n'est pas évidente et surtout, je ne sais pas quoi leur dire quand derrière, je ne suis pas certain qu'il y a de l'instrumentalisation de leur de leur maman.
Ah ben c'est un cas classique. Merci Jérémy de nous avoir appelé. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants de 9 ans, 14 ans, 18 ans, dont certains se semblent se sentent coupables
il faut déjà
et qu'il y a encore du conflit
oui.
après la séparation.
Il faut déjà se méfier de l'enfant silencieux qui ne dit rien. Je crois que tout est bon, pour même si ça doit passer pour une forme d'explosion, de remettre les choses un peu sur la table, mais pas en trio. Chaque enfant est différent, chaque enfant a son vécu particulier. Ils ont des âges très très différents les uns des autres. Je pense qu'il faut, comme pour tout dans l'éducation, être vrai. Être vrai, ça veut dire dire les choses et ne pas essayer de chercher par derrière comment ça se passe. Ne pas utiliser l'enfant pour savoir ce qui se passe chez la mère, déjà. C'est pas une tête chercheuse. Et ne rien essayer de continuer à avoir votre rôle de père vis-à-vis de l'école. Par exemple, malheureusement, on oublie souvent d'informer les pères s'il y a une absence, etc., les bulletins scolaires. Tout ça, vous devez le suivre. Vous devez suivre la santé de vos gosses. Vous devez vous préoccuper des lunettes, des bouts de ferraille dans les dents, etc. Soyez père.
Être vrai et en même temps, ne pas tout raconter à ses enfants non plus, pour justement éviter de continuer l'instrumentalisation, Alimata Fofana.
Oui, je pense qu'il est important aussi que chacun reste à sa place. Je ne crois pas qu'il faille que les enfants soient au courant de tout, serait-ce que même au niveau de l'intimité des parents, même s'ils rencontrent quelqu'un d'autre, parce que le souci, c'est aussi ça. On voit dans certaines familles, la mère va rencontrer quelqu'un d'autre, elle va directement le présenter aux enfants, peut-être qu'il faut attendre un petit peu parce qu'il faut déjà qu'il digère la séparation avec l'autre parent et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne, et surtout quand il y a des changements. Parce que ça aussi, j'ai vu, quand il y a des changements, il y a quand même un impact.
Non, mais c'est sûr qu'il faut respecter un peu l'enfant. Et respecter l'enfant, c'est ne pas lui étaler sa sexualité.
Ne pas trop commenter non plus le conflit lui-même.
Ne pas commenter, mais simplement quand même, il y a des choses qu'une mère peut dire sur le pourquoi de la séparation, si c'est elle qui l'a déclenchée. Si c'est une mère qui s'est fait tabasser, elle peut dire, tu as assisté à une certaine violence. Il y a des choses, on croyait que ce serait une histoire d'amour, et bien c'est raté. On y croyait, quand on t'a fait, on s'aimait. C'est très important que l'enfant sache qu'il n'est pas né par hasard et que c'était des gens qui y croyaient. Et ça foirait. C'est comme dans les cours de récré. T'as été copain avec machin et puis maintenant vous tapez dessus, vous jouez plus ensemble. Ben, ça arrive chez les grands.
Merci à vous, Jérémy, de nous avoir appelés. Bon courage. Et merci à vous, Alimata Fofana. Elisabeth Brami, le dernier né de vos collections de livres pour enfants, Mes parents divorcent et alors, à offrir évidemment quand ça se passe pas trop trop bien à la maison. Et c'est publié aux éditions PKJ. Merci à toutes les deux d'être venues dans l'émission. Dans quelques instants, Journée mondiale des migrants, on est en ligne avec l'association ECOTA.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Journée mondiale des migrants, on en parle chez 7 milliards de voisins en direct sur RFI. Nous sommes en direct avec Mas Mahmoud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de l'association ECOTA. C'est une association qui n'est pas très connue, qui signifie unité, c'est ça ?
Exactement, oui.
En quelle langue ?
Alors, c'est unité en Bangla. Bangla, c'est Bangladesh, un langue qui en parle en Bangladesh et aussi en Inde. Moi, je viens de Bangladesh.
Donc. C'est ça, c'est votre pays d'origine. Cette association a la particularité d'avoir été fondée par des personnes réfugiées elles-mêmes. Dites-nous pourquoi et dites-nous pourquoi ça n'est pas si répandu que cela.
Alors, nous sommes quatre fondateurs qui partagent les mêmes valeurs et idées. Dans ce domaine, un grand nombre d'acteurs travaille pour répondre aux problématiques d'intégration et des personnes déplacées. Mmh. Des personnes déplacées, pour nous, c'est des réfugiés, des demandeurs d'asile, migrants, migrantes et des personnes apatrides. Mais après, nous pensons que les personnes déplacées elles-mêmes connaissent souvent le mieux leurs besoins et les obstacles qu'elles rencontrent lorsqu'elles répondent à ces besoins. Et donc du tout, leur résilience, leur force, les met en meilleure position pour agir que l'agression externe.
Donc, vous avez fait un stage pendant vos études au Haut-Commissariat des Nations Unies et vous avez constaté finalement avec une certaine surprise que les personnes réfugiées déplacées sont très peu présentes dans l'organisation de tous ces programmes.
Exactement, oui. Quatre ans de mon master à Sciences Po Paris, donc j'ai fait un stage au Haut-Commissariat aux réfugiés à Genève et là j'ai constaté qu'il y avait plus de 1400 personnes qui travaillaient justement au siège, mais il y avait très très peu de personnes réfugiées présentes dans le salarié de l'organisation. Oui. Mais même aussi, par exemple, même à Paris ou d'autres pays, selon notre recherche, on a vu qu'en fait, il y a pas mal d'associations qui travaillent avec les réfugiés. Oui. Souvent, ils n'intégraient pas de personnes réfugiées au sein de leur propre structure. Et oui. Pour nous, ça reste à beaucoup de choses à améliorer. Donc c'est pour ça que nous avons monté cette association pour résoudre cette issue.
Faire avancer les causes des personnes déplacées par des personnes déplacées elles-mêmes, aider pour les démarches professionnelles, le travail, la formation, faire du plaidoyer aussi auprès des autorités publiques. Vous préparez un Noël assez spécial, Mas Mahmoud.
Exactement, oui. Alors, nous comprenons, en fait, il est important de se réunir et partager l'esprit de Noël. Et beaucoup d'entre nous, y compris les personnes réfugiées, ne sont pas en mesure de le faire. Et les acteurs traditionnels ont tendance à être absents pendant la période de fête. Mmh. Mais pour nous, en fait, il est important de se rassembler et de partager. Donc, pour conséquence, nous organisons un dîner festif pour créer des liens sociaux et promouvoir la cohésion sociale. Mmh. Donc, du coup, cet événement vise à rapprocher les personnes déplacées qui sont marginalisées et les Parisiennes et Parisiens dans l'espoir que des personnes d'horizons différents puissent célébrer l'ensemble de l'activité.
Avec un super repas le 23 décembre. Vous-même, Mas Mahmoud, vous êtes fraîchement diplômée de Sciences Po. En quelques mots, quelle a été votre histoire ?
Alors, moi, je viens de Bangladesh. J'ai dû quitter mon pays pour des raisons politiques. Et après, donc, moi, je me suis retrouvé dans différents pays. Finalement, après avoir été déplacé dans six différents pays, je me suis retrouvé en France. Je voulais pas vraiment venir en France, mais je me suis retrouvé ici. Et donc là, je me suis dit, voilà, je vais rester ici. Quand je suis arrivé ici, donc je vais rester ici et je vais essayer de rétablir ma vie un peu.
Rétablir votre vie parce que vous êtes, pour résumer, passé quand même de la rue à Sciences Po, ça a été aussi une réalité difficile. Mas Mahmoud, on va rappeler les informations pratiques pour ce dîner le 23 décembre, ça se passera à Montreuil, à 19h, repas, remise de cadeaux, et c'est organisé par l'association Ecota. Merci à vous, Mas Mahmoud. Très bonne journée à vous et merci à tous les voisins et les voisines. RFI, la